RCF.
Bienvenue à toutes et à tous en direct ou en podcast dans ce 11e numéro de la 7e saison de Côté Ouvert, votre rendez-vous consacré à l'actualité du rugby à 15 sur RCF Pays d'Aude, avec la complicité de RCF Pays Tarnais et également diffusé sur RCF Occitanie en DAB+, rendez-vous qui vous est toujours proposé en partenariat avec le site Vibray Rugby. Aujourd'hui, dans notre multiplex entre l'Aude, le Tarn, le Piémont des Alpes et l'Hérault, eh bien, on voit que les effets des réveillons et des autres agapes se sont dispersés puisqu'ils ont été très nombreux cette fois-ci à répondre à l'appel. Alors, outre votre serviteur, j'ai le plaisir d'accueillir, comme toujours, notre vénérable préféré, monsieur Christian Mosna. Bonjour Christian.
Bonjour à tout le monde.
Au pied des Alpes, Fred Protin est fidèle au rendez-vous. Salut Fred.
Bonjour Patrick et bonjour tout le monde.
L'indispensable Renaud Sorel est aussi au rendez-vous. Bonjour Renaud.
Bonjour à toutes et à tous.
Christian Guittard alias Tahiti Bob nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour Christian.
Salut Patrick et bonjour à tous.
Et pourquoi une telle équipe me direz-vous ? Tout simplement pour être à la hauteur de notre invité puisqu'on a pris un engagement en 2023 à avoir des invités, on va dire maintenant, VIP. Et ça commence bien en la présence et en tout simplement parce qu'il a répondu présent à notre invitation, c'est monsieur Clément Doumenc, troisième ligne au MHR de son état. Bonjour Clément et ravi de te trouver avec nous.
Bonjour à tous, ravi également.
Et enfin, pour mettre en nom de cette émission, celui qui est derrière ses consoles, l'homme au doigt de fée, c'est GG au doigt de fée, Jérôme Bozon. Bonjour Jérôme.
Salut Patrick et bonjour à tout le monde.
Au menu aujourd'hui, donc, dans Côté Ouvert, nous vous proposons de vous approprier un concept très en vogue en sociologie aujourd'hui, celui de transfuge de classe et de l'adapter au rugby en revenant sur la jeune et brillante carrière de notre invité Clément Doumenc. Et puis si nous avons le temps, nous jetterons aussi quand même un petit coup d'œil du côté de la Nationale qui reprenait ce week-end. Allez, petite mise au point de vocabulaire pendant quelques secondes sur le concept de transfuge de classe pour un petit clin d'œil à notre invité. C'est un individu qui quitte son milieu social pour un milieu supérieur. Donc, rapporté au rugby, ça peut dire que celui qui est formé dans des divisions inférieures finit par pouvoir évoluer en haut du panier, c'est-à-dire il termine sa course en top 14. Alors, on va essayer de vérifier tout ça tout de suite avec Clément. On va passer par un petit interrogatoire des familles. Clément, on a quand même une partie de réponse. Nom, prénom et surtout âge et profession.
Alors, moi, c'est Clément Doumenc. J'ai 25 ans et je joue au rugby, comme tu l'as dit juste avant, à Montpellier.
Donc, rugbyman professionnel.
Exactement.
Ton premier contact avec ce sport qu'on aime et qu'on affectionne tous?
J'ai commencé le rugby à 11 ans à Carcassonne. Et depuis, je ne l'ai pas quitté, et jusqu'à juste quitter mon club formateur l'année dernière, Carcassonne, du coup pour Montpellier cette année.
Et est-ce que c'est ton premier contact avec, on va dire, le sport de compétition ou tu étais déjà dans une démarche de pratique sportive?
Je faisais déjà du foot et du judo en compétition, mais bon, rien à voir avec ce que je peux connaître aujourd'hui ou ce que j'ai connu par le passé.
Alors, quand est-ce que tu as signé, on va dire, ton premier contrat, un premier engagement, que ce soit un contrat espoir, par exemple, ou centre de formation, ça a commencé quand ça?
Je crois que j'avais 18 ans à Carcassonne, où c'est Mathieu Cidre, déjà, qui fait rentrer au centre de formation à Carcassonne. Il était directeur du centre de formation à cette époque-là, et j'ai signé mon premier contrat avec lui, et par la suite, mes premiers contrats professionnels également à l'USC.
Allez, pour terminer ce petit tour d'horizon, cette petite présentation, à quel moment c'est devenu pour toi, on va dire, quelque chose comme une évidence que le rugby allait devenir, du moins en tout cas pendant une période de ta vie, un métier ou ton métier?
Je dirais quand j'ai signé mon premier contrat professionnel, où c'est vraiment là où on se dit, c'est mon métier, c'est de ça que je vis. Donc après mes premiers pas en pro à Agen à 18 ans, j'ai commencé à me tourner vers le monde pro et à réellement y croire en ce que ça allait devenir, c'est-à-dire mon futur travail et ma passion et toute ma vie maintenant.
Allez, on va justement prendre notre envol, puisque tu es devenu rugbyman professionnel à ce moment-là. Et puis, on va peut-être nous concentrer sur ce qui nous anime ce soir, c'est-à-dire le passage du Pro D2, ton club formateur, au top 14. Je laisse la main à monsieur Christian Guittard.
Oui, bonjour Clément, bonjour tout le monde. Oui, la première question, c'est sur cette période de mutation. Tu sais que ça alimente des rumeurs, des fantasmes, quand est-ce qu'on part, quand est-ce qu'on arrive. Et donc la question, elle est toute simple. À partir de quel moment tu as été contacté par le MHRC, et sans rentrer trop dans le détail. Et puis, est-ce que tu avais également éventuellement d'autres opportunités de club? Comment ça se déroule finalement ce passage vers l'échelon supérieur?
Les premiers contacts du coup avec Montpellier se sont faits aux alentours de mars, donc ça a été assez tard pour ma part. Aux alentours de mars dernier, voilà, on a fait une belle saison avec Carcassonne l'année passée, et donc voilà, c'est par le biais des agents, hein, la plupart des joueurs ont des agents maintenant dans le monde professionnel et dans le rugby, et donc voilà, j'ai été contacté, je suis allé visiter les infrastructures, j'ai passé des tests physiques, j'ai passé des tests médicaux également, et quand tous les feux étaient ouverts, voilà, Montpellier s'est positionné, m'a fait une offre, on a forcément négocié un petit peu cette offre, et puis j'ai signé dans la foulée. Voilà, pour ce qui est des autres contacts, j'en ai eu d'autres, mais Montpellier, on va dire, était la plus...
plus évidente peut-être.
Évidente pour commencer, on va dire.
Ok, merci.
Monsieur Mosna, je vous sens impatient.
Non, pas du tout. Bonjour Clément. Donc, est-ce que pour toi, ça a été compliqué de quitter ton club de cœur et de toujours? Comment ça s'est passé dans ta petite tête?
Ouais, c'était très particulier. J'ai toujours un peu de mal à m'y faire, parce que quand je parle de mes anciens coéquipiers, je dis nous, mais je fais plus partie de ce club. Mais non, c'était difficile, surtout après la saison qu'on a vécue, où on a vraiment créé quelque chose, un vrai groupe et une vraie histoire, hein, en fait. Et voilà, il y a eu beaucoup d'émotions qui ont été durant toute la saison dernière. Et forcément, ça a été assez difficile. Donc bon, petit à petit, on s'y fait. On change ses repères, on en crée d'autres, on en perd d'autres aussi, mais bon voilà, c'est le sport pro maintenant aujourd'hui, et puis je pense que pour mon évolution et pour ma carrière, je pense que c'était un bon tremplin et quelque chose que je ne pouvais pas refuser.
Merci.
Et donc moi je voulais te demander, Clément, quels objectifs sportifs tu t'étais fixé en venant à Montpellier après cette signature de contrat?
Objectif sportif, alors l'objectif collectif, c'est d'abord gagner des titres, parce que malheureusement à ce jour j'ai encore zéro titre à mon actif, donc j'aimerais bien gagner quelque chose, c'est aussi pour ça qu'on joue au rugby. Ensuite, à titre personnel, c'était engranger le maximum d'expérience, le maximum de temps de jeu et prendre surtout le maximum de plaisir à un étage supérieur.
Et du coup, là encore, comment ça se fait l'intégration? Tu le disais à l'instant, tu es un enfant du club de Carcassonne, connu finalement, tu connaissais un seul vestiaire, tu arrives dans un autre vestiaire, il y a des Sud-Africains, il y a des stars, beaucoup de joueurs. Comment ça se passe l'intégration quand on est un joueur qui vient de Carcassonne? Est-ce qu'il y a une difficulté particulière ou est-ce que ça se fait finalement assez facilement?
Moi, j'ai tendance à dire que l'intégration, elle est plus facile quand on arrive à répondre présent sur le terrain et à montrer aux yeux des autres qu'on est crédible. Quand on n'a pas énormément de temps de jeu, c'est difficile. Donc voilà, c'est lorsqu'on a l'occasion, c'est montrer que voilà, qu'on n'a pas été recruté pour rien, qu'on est méritant et qu'on mérite aussi cette place et que voilà, on va pouvoir s'envoyer pour les copains autour. Et voilà, je pense que c'est gagner le respect un peu aux yeux de ses coéquipiers sur le terrain, c'est le principal. Et après, dans la vie de groupe, Ça ira tout seul.
Et quand on arrache un ballon à la dernière seconde, comme la dernière fois, du coup, ça aide beaucoup, c'est ça?
Ouais, ça, notamment ce type d'action, c'est sûr, ça peut aider, bien sûr.
Ouais, justement, c'est Renaud, tu parlais de faire tes preuves sur le terrain. Quelle différence tu as pu, ou tu constates encore entre le top 14 et la Pro D2? On sait que ça va plus vite, mais vraiment, toi, tu le sens en tant que joueur, ça va plus vite, ça t'a plus fort quand même?
Alors, Ça tape plus fort, pas forcément. Par contre, je trouve que le rythme, la vitesse de jeu est vraiment, vraiment supérieure. Ça, c'est, en top 14, elle est supérieure. En Coupe d'Europe, elle est encore supérieure. Et ensuite, c'est le rythme du calendrier. C'est un rythme particulier parce que la Pro D2, c'est tous les 4 matchs. Après, on a une semaine de repos. Là, c'est le bloc le plus petit, je crois, qu'on ait fait pour le moment. C'est un bloc de 10 matchs.
D'accord,
Donc, voilà. Donc, forcément, on coupe pas trop. On est souvent au stade. Voilà, beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus de. Mais bon, voilà, c'est le jeu aussi et c'est le niveau qui veut ça aussi.
ok.
Et justement, en relation à ce que tu viens de dire, en termes de travail personnel, est-ce que là aussi, tu vois beaucoup de différences, sur les intensités, les entraînements, en fait? Est-ce que il y a une charge plus importante ou elle est répartie différemment? Comment ça se passe, hein?
Ça n'a rien à voir au niveau de la charge de travail, elle est vraiment différente. Ensuite, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus réfléchi, intensif. Surtout, en plus, j'ai tendance à dire Carcassonne, on était encore à ce niveau-là, même s'il y a eu énormément de progrès et que le staff fait avec les moyens qu'il dispose. Mais ça reste un club très, très archaïque à ce niveau-là, hein, il ne faut pas se le cacher. Donc, voilà, quand on arrive à ce niveau, on voit que voilà, rien n'est fait au hasard et tout est réfléchi. Et donc forcément, la charge de travail elle est expliquée, elle est plus intense et le volume est beaucoup plus important également.
Plus spécifiquement, Clément, quand on regarde ton poste, celui de troisième ligne, on voit quand même qu'il y a du beau monde à Montpellier. Il y a un certain Zach Mercer, il y a Béconnier, par exemple, pour ne citer que. Cette belle, on va dire, présence en troisième ligne, tu le vois comment, toi? Une émulation, une concurrence ou un élément vraiment formateur pour progresser?
Alors, moi je vois ça plus comme une concurrence. Formateur, non, parce que là où on progresse, c'est quand on est sur le terrain. Et si c'est les autres qui sont sur le terrain, c'est pas nous, donc on progresse pas. Donc, alors après, c'est toujours bien de côtoyer certains types, certains hommes qui ont l'habitude du haut niveau. Mais nous, ce qu'on veut, c'est jouer pour pouvoir engranger le plus d'expérience. L'expérience, ça se fait le week-end et moins la semaine, j'ai envie de dire. Donc voilà, après je savais également en venant ici qu'il y aurait une forte concurrence et je crois que je suis en troisième ligne, je suis le seul qui n'est pas international d'ailleurs. Donc voilà, la question est vite répondue. Hein. De toute façon, à ce niveau-là, c'est voilà, c'est à tous les postes.
On lance un petit message à Fabien Galthié alors?
Hein. Vous pouvez essayer, mais après, ça va être surtout pour les gars.
Fred? Pardon,
Oui,
Fred.
et donc quand tu as des monstres comme Zach Mercer et autres internationales, toi, ton objectif finalement pour cette fin de championnat, tu t'es fixé un objectif individuel, sportif, en disant, ben voilà, il faut absolument que j'arrive à gratter du temps de jeu, certes, mais en même temps peut-être améliorer certains gestes, certaines phases dans mon jeu, être peut-être plus, je ne sais pas, parce que tu grattes beaucoup, tu t'es beaucoup au plaquage, peut-être que tu veux étoffer ta panoplie de techniques, quoi.
Bon, après, on nous répète souvent à ce niveau, lorsqu'on a un super pouvoir, c'est-à-dire un élément où on est performant, c'est-à-dire qu'il faut le garder, le faire progresser et s'appuyer sur ça, tout en améliorant autour les autres domaines. Donc, moi, pour ma part, mon super pouvoir et ce pourquoi j'ai été recruté, je pense, c'est le fait de pouvoir gratter des ballons dans le jeu au sol. Donc il faut que je progresse forcément sur ça, en étant plus intelligent, en triant mes rucks, etc. Et ensuite, c'est étoffer le jeu, c'est-à-dire faire plus la différence dans le jeu offensif. Parce que bon, mais là, c'est pareil, c'est pas la pro des deux. Voilà, les défenses sont plus en place, les mecs sont plus costauds, voilà, ça a rien à voir. Donc avancer plus ballon en main, comme je pouvais le faire auparavant à Carca. Et ensuite, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en défense, il faut être se rapprocher de la perfection, c'est-à-dire être à 100% au plaquage et avancer le plus possible. De toute façon, à ce jeu, il faut avancer. C'est bête et méchant, mais voilà, c'est le but, c'est d'avancer tout le temps en défense, en attaque. Donc voilà.
Ouais, alors justement, tu dis avancer, te fixer des objectifs. On est en pleine période de Coupe d'Europe. Tu as pu y goûter par deux fois, par deux matchs. Tu l'as défloré un peu. Tu as dit, voilà, il y avait une différence avec le top 14. Mais c'est quoi? C'est que sur la vitesse ou il y a autre chose en plus? Il y a ce petit supplément d'âme qu'on retrouve pas dans le championnat?
Je pense que déjà les équipes anglaises se régalent de battre les équipes françaises. Montrer aussi que voilà, y a quand même cette rivalité anglo-saxonne et française où voilà, on sent qu'il y a un peu plus de, je sais pas, de un challenge comme des mini crunch tous les week-ends, j'ai envie de dire. Donc, et après ensuite la vitesse, le jeu est différent parce que c'est vachement prôné sur le jeu, le fait de le bonus offensif avec les 4 essais. Je trouve que ça prend beaucoup le jeu, donc voilà, sur les phases statiques, sur la conquête, on y passe moins de temps, et dans les racks, voilà, ils sont un peu moins disputés que ça peut être en top 14.
D'accord.
Christian, pour conclure cette première phase.
Oui. Alors je suppose, Clément, que tu regardes d'un œil attentif les résultats de Carca. Et je voudrais savoir ce que tu penses actuellement de nos difficultés. Qu'est-ce que tu penses qu'on va pouvoir passer un cap? Parce que là, on joue le maintien, hein, faut pas se cacher. Et voilà. Donc on est un peu surpris de jouer que le maintien.
Alors déjà moi j'ai loupé qu'un seul match malheureusement parce que je jouais, c'était le match de Nevers à la maison parce que je jouais au London Irish donc j'ai pas pu le voir. Et ensuite bon tu te dis surpris, moi je vais te dire que je le suis pas du tout même. Quand tu perds 18 joueurs dans un effectif de 40 et si tu prends l'équipe de l'année dernière, l'équipe titulaire, eh bien, je pense que sur 15 titulaires il t'en manque 11 ou voire 12.
C'est sûr.
Je pense que voilà, tu recrées pas une équipe comme ça. Donc déjà, c'était sûr que l'année allait être difficile. Ensuite, je pense qu'il y a eu quelques erreurs dans le recrutement, c'est certain aussi, qui n'amènent pas ce qui devrait amener. Ensuite, voilà, j'étais assez inquiet. Ce match de Grenoble m'a plutôt rassuré dans l'engagement et dans l'état d'esprit surtout, ce qui fait la force de Carca.
Oui, on a retrouvé un petit peu.
Voilà, on a retrouvé un peu ça avec des mecs qui reviennent aussi qui vont faire du bien. Je pense à Pierre Reynaud qui a fait un super match après 4 mois de même plus 6 mois de d'absence. Il va amener ce truc et qu'il a connu l'année dernière et il va essayer de le transmettre aussi cette année. Je pense que Christian a repris un petit peu la barre du bateau parce que il était peut-être un peu effacé du fait que ce soit sa dernière année. Il n'a pas envie de finir en queue de poisson non plus, donc il a repris, je pense, aussi la barre. Et je sais que là, il est un peu plus sur leur dos. Et donc,
Oui,
ça repart.
ça se sent aux entraînements, hein, qu'il est sur
Ouais,
leur
voilà. Enfin, je sais comment il fonctionne là, et j'ai quelques nouvelles aussi de pas mal de mecs, donc je sais exactement comment ça se passe.
Oui.
Donc voilà, je suis pas, on va dire. Enfin, je suis inquiet forcément un petit peu, mais je pense que voilà, il va y avoir 3 matchs décisifs parce qu'on va jouer, ils vont jouer.
Bon lapsus.
Lapsus.
Ouais.
Rouen, Massy
Voilà.
et
Et
Soyaux.
Angoulême.
Voilà,
Voilà,
les
exactement.
rivaux directs, quoi.
C'est ça, exactement. Donc je pense que déjà on verra un peu plus clair
Certainement, oui.
après ce bloc et j'espère que ça se passera bien parce qu'ils ont les moyens de faire plus. Là, le but c'est de vraiment reconstruire pour l'année prochaine, faire bien les choses, recruter intelligemment, recruter carcassonné parce qu'il y en a et faire confiance à certains jeunes qui veulent le coup. Donc voilà.
Bah écoute, belle analyse
Merci.
Clément. Moi, je vous propose d'aller faire, on a tutoyé les sommets avec le top 14 de la Coupe d'Europe, mais il y a aussi des championnats domestiques intéressants comme celui de National, par exemple. Alors, on va faire un petit tour en National. Allez, juste quelques minutes pour parler de National, parce que c'est la reprise en National ce week-end. D'ailleurs, tiens Clément, je vais tout de suite interpeller là-dessus, parce que les joueurs de National, ils ont connu un mois entier de coupure. Le dernier match était le 16 décembre, ils ont repris le week-end du 14-15 janvier. Question simple, réponse simple, pour toi, c'est long, c'est une bonne chose, ou ça peut quand même être quelque chose un peu d'handicapant d'avoir une coupure aussi longue?
Pour moi, c'est trop long. C'est trop long. Un mois, s'il y a des mecs pas sérieux, on se désentraîne vite. Et puis, enfin, je pense que voilà, c'est même dangereux pour les organismes parce que voilà, en pleine saison comme ça, couper autant de temps, c'est pas sérieux. Donc, j'imagine que les clubs après ont gardé les mecs aux entraînements pour
Ouais.
les garder physiquement en forme et ensuite les laisser concerner aussi par le championnat parce que on a le temps de s'oublier en un mois.
Ouais, clairement, ils ont repris autour du 3 janvier. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner un petit rappel des résultats du week-end dernier, du week-end écoulé. Donc, hier, Kerkeran a fait un super match et a fait une belle avancée vers le maintien en s'imposant face à Suren 40-20. Blagnac s'est imposé de justesse à la maison face à Valence Roman, mais s'est quand même imposé 20-18. Narbonne, on en parlait off et on en reparlera tout à l'heure, face à Bourgoin, 36-20, victoire des Narbonnais. Coucou à Manu Duval. Dax continue son chemin de leader, victoire 23. 7-23 face à Nice. Albi entame parfaitement l'année 2023 avec une victoire à Rennes 25-7. Chambéry a pris le meilleur sur l'US Bressane 26-16. Et enfin, les Tarbés sont allés faire le coucher de Moribond, joueur de Cognac, en s'imposant bonus offensif à la clé 25-9. Mon cher Renaud, toi qui étais un suiveur de la nationale, j'ai calculé 9 points d'écart entre le 11e et le 5e, tout comme en Pro D2, tout comme en top 14, il y a quand même un gros ventre mou bien serré.
Ouais, c'est serré, chef, c'est ce qui est intéressant. Chef. Parce que à tous les niveaux, on en parlait avec l'entraîneur d'Albi, Mathieu Bonello, il disait tout le monde peut gagner partout, surtout à domicile. On voit que, par exemple, Chambéry ne laisse que des miettes à Bourg-en-Bresse 26-16. Bourg-en-Bresse repart à vide, Valence-Roman qui se fait taper par Blagnac, voilà, Narbonne qui corrige Bourgoin, donc effectivement c'est serré une bonne perf comme par exemple celle qu'ont fait les Albigeois à Rennes les replace tout de suite, leur fait gagner une place au classement.
Donc,
même s'il y a, on va dire, voilà, quand même un quatuor de tête qui semble un petit peu se détacher. Mais le moindre faux pas, tu fais deux mauvais résultats de rang et tu peux de suite te mettre un petit peu le feu à la maison, quoi.
Fred, toi qui regardes un peu tous les championnats, je le sais, ça sent par contre très mauvais, sans vouloir jouer Madame Irma et la boule de cristal, ça sent très très mauvais pour Cognac, qui est toujours en quête de sa première victoire, c'est-à-dire qu'on est à 15 journées disputées, zéro victoire côté Cognac. Là, il faut préparer la saison prochaine à National 2, quoi.
Oui, oui, oh, bah, t'as raison, là, je pense que les affaires sont, malheureusement, c'est plié pour eux, hein, parce que 15 défaites de rang, on peut pas remonter, et puis il n'y a pas de dynamique, apparemment, il n'y a rien qui montre qu'ils sont sur une phase ascendante. Non, je pense que on en avait discuté avec Manu l'année passée pour Narbonne et préparer la nationale, donc là, c'est grand temps de préparer l'étage inférieur, ça, c'est une évidence.
Tiens, Renaud, je reviens vers toi parce que en bas du classement, Rennes est à peine mieux loti. Certes, il y a 2 victoires au compteur, mais enfin, Rennes, il voit le premier dans le renégable. Je crois que c'est s'éloigner à plus de 8 points maintenant. Donc, les Bretons, ça risque d'être compliqué la fin de saison aussi. Hein.
Ouais, ils étaient un peu l'invité surprise de cette montée. Ils n'étaient pas, on veut dire, entre guillemets, programmés pour la montée. Ils sont en train de le payer cash. Là, c'est la 5e défaite de rang, la deuxième à domicile, et quand on regarde leur programme, ils vont à Valence Roman qui a vraiment besoin de se rassurer, ils vont recevoir Tarbes qui est compliqué, ils vont aller à Bourg-en-Bresse, corrélé au bon résultat de Yerkar-Kéran qui sait gagner ses matchs à domicile, ouais, qui a tout compris dans son opération maintien, qui était un peu plus câblé pour ce championnat. J'ai peur que les Bretons fassent un très court aller-retour au plus haut niveau amateur.
Ouais, les deux, Christian, tiens, on regarde en haut du classement. Dans le top 6, on retrouve Bourg-en-Bresse, Valence, on retrouve Albi, trop de surprises. Est-ce que quand même une surprise est toujours possible dans le genre de Blagnac, par exemple, qui semble s'inviter au haut du classement, ou je ne sais pas moi, un des gros qui au final ne sera pas dans les 6 à la fin? Est-ce que vos boules de cristal respectives, je ne veux pas être ambigu dans mes propos, vous permettent de faire un peu de prédiction? Allez, Christian, vas-y.
Oui, pardon. Donc oui, moi je me semble que Narbonne est en train de relever la tête et peut se mêler à la lutte pour la 4e place.
D'accord.
Je les vois finir très fort.
Christian, je dirais la même chose pour Blagnac, c'est quand même une équipe qui a un joli centre de formation. On les voit jouer quand on va voir les cadets juniors ou espoirs de l'USC. Il y a du beau monde derrière et j'aime bien cette équipe de Blagnac, j'aime bien sa manière de jouer et je les vois bien rester là où elles sont en tout cas en ce moment.
Allez, moi je vais me tourner vers Clément parce que je sais que Clément, je suppose, hein, mon petit doigt me dit que tu suis quand même un petit peu la nationale. D'ailleurs, il paraît que tu étais ce week-end au Parc des Sports à Narbonne. Et peut-être que tu suis un petit peu plus les résultats de peut-être de Bourgoin hein, cette saison. C'est ouais. L'occasion aussi peut-être de faire un petit coucou, un petit bisou à Maxou, non?
Ouais, bien sûr. Je suis forcément Bourgoin un peu plus parce que voilà, il y a. Maxime Castan donc, qui a signé cette année à Bourgoin. Il y a Romain Favaretto également qui est ouais. Un très bon ami. Il y avait Maxime Sidobre aussi mais qui est parti assez récemment. Donc non, je suis Bourgoin forcément et j'espère parce qu'ils ont un beau projet, de belles infrastructures. C'est un beau club, ils ont de super supporters en plus. Le stade, ils font 4000 de moyenne à tous les matchs à domicile à Rajon. Donc c'est quand même magnifique. C'est une ville qui sent le rugby et donc... voilà, forcément, je supporte un peu plus Bourgoin cette année. Donc voilà, j'aime beaucoup Blagnac aussi, Christian le disait, parce que voilà, ils ont pas un gros budget, mais ils font beaucoup confiance aux jeunes, ils ont pas énormément de contrats professionnels, et puis pourtant ils sont vite dans le top 6, et puis ils ont rien à envier à personne. Et donc moi je trouve ça hyper intéressant aussi de voir comment, sur quel schéma est Blagnac, et de voir que ça fonctionne aussi. Et que c'est à coup de milliers d'euros, parfois ça fonctionne pas non plus. Donc voilà, je suis d'accord aussi avec Christian par rapport à Narbonne. Je pense qu'ils vont remonter parce qu'ils ont un effectif intéressant. Et pour les avoir vus jouer ce week-end du coup contre Bourgoin, comme tu disais Patrick, derrière ils envoient vachement de jeux. On retrouve un peu la patte Serron qui est arrivée à mettre en place. Et franchement, c'est plaisant à avoir joué. Je pense qu'ils feront mal à pas mal d'équipes sur cette fin de saison.
Et écoute, Clément, on va conclure nous là-dessus parce que Jérôme me fait des renseignes. Le temps est en train de disparaître, de s'effriter tout doucement. En tout cas, nous, on vous remercie, chers auditeurs, chères auditrices. On vous souhaite un très, très bon appétit. On vous rappelle, direct Pro D2 vendredi, un certain USC Rouen. Samedi soir, il y aura un Albi hier. Et peut-être, si Manu prend le volant, il y a un Suren Narbonne, mais ça, je ne suis pas si sûr. En tout cas, restez connectés. Vous aurez toutes ces infos sur le site Vibrer Rugby. D'ici là, bon appétit à tous. Merci Clément, merci les gars et à très vite dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Salut à tous!